17h59 sur France Culture, il est l'heure de vous annoncer le journal qui va bientôt arriver, mais aussi le programme du temps du débat à 18h15. Et bien, le temps du débat posera une question Covid-19. Pourquoi l'épidémie nous surprend-elle encore à un moment, effectivement, où nous n'avons pas encore atteint le cap et le pic de cette épidémie? Il est 18h sur France Culture. Un journal présenté ce soir par Benoît Bouscarel. Bonsoir Benoît.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à toutes et à tous. Un discours volontariste pour l'Europe et un appel à la solidarité entre les 27 pour sortir de la crise du coronavirus. Angela Merkel a pris la parole tout à l'heure devant le Parlement européen à Bruxelles à l'occasion du début de la présidence allemande du Conseil européen. Nous l'écouterons dans un instant.
Plusieurs signaux inquiétants en France sur un possible retour de l'épidémie de Covid-19 ou sur l'arrivée d'une deuxième vague. Les services d'urgence voient de nouveau l'arrivée de cas aigus.
Et puis les eaux usées en Ile-de-France présentent des traces du coronavirus. Nous verrons cela avec Margot Delpierre. Dans ce journal également, le bras de fer qui continue entre la région Île-de-France et l'État sur la question du financement des transports publics. Île-de-France Mobilité vient de décider de stopper ses versements à la RATP et à la SNCF. Explication d'Hakim Kasmi. Angela Merkel a pris la parole cet après-midi en tant que dirigeante pour 6 mois de l'Union européenne. C'était devant le Parlement à Bruxelles. Depuis la semaine dernière, c'est en effet l'Allemagne qui assure la présidence tournante du Conseil européen. Une présidence qui sera façonnée, a-t-elle expliqué, par la lutte contre le coronavirus. Sur la crise économique provoquée par l'épidémie de Covid-19, la chancelière a expliqué que la gravité de la situation imposait qu'un compromis sur la relance soit trouvé dès cet été. On l'écoute.
L'Europe n'est pas seulement ce legs que nous avons reçu, c'est aussi un destin qui nous engage. Nous ne sortirons ensemble de cette crise que si, malgré nos différences, nous trouvons des solutions communes, si nous sommes prêts à voir les choses avec les yeux de l'autre. Faire preuve de compréhension pour le point de vue de l'autre. Nous devons nous renforcer les uns les autres. Personne ne sortira tout seul de cette crise. Nous sommes tous vulnérables. La solidarité européenne, ce n'est pas un geste d'humanité, mais un choix durable. Et ce sera l'un des leitmotivs, le slogan de ma présidence, tous ensemble pour relancer l'Europe.
Gemeinsam Europa wieder stark machen.
Autre chantier prioritaire pour Angela Merkel dans le cadre de la présidence tournante du Conseil, la conclusion d'un accord post-Brexit avec Londres. Prochain sommet européen les 17 et 18 juillet à Bruxelles. En Grande-Bretagne, où l'économie s'est contractée de 25% au plus fort de la crise sanitaire et où le PIB devrait reculer cette année de plus de 10%, un nouveau plan de relance vient d'être présenté. Rishi Sunak, le chancelier de l'échiquier, a présenté tout à l'heure ce plan à hauteur de 30 milliards de livres, un peu plus de 33 milliards d'euros. Un plan tourné notamment vers les secteurs de l'hôtellerie, du tourisme et de l'immobilier. Depuis Londres, la correspondance d'Aude Soufi.
Le chômage n'est pas une fatalité, selon le ministre britannique des Finances. Et pour remettre le pays au travail, le gouvernement annonce près de 9,5 milliards de livres d'encouragement aux entreprises à rappeler leurs salariés d'ici le mois d'octobre. Rishi Sunak.
Si vous êtes un employeur et que vous faites travailler une personne qui a été mise au chômage partiel, que vous l'employez sans interruption jusqu'en janvier, nous vous verserons une prime de 1 000 livres par employé.
Les entreprises de tous les secteurs pourront en bénéficier, mais celles du tourisme et de l'hôtellerie-restauration se voient octroyer un coup de pouce supplémentaire. Plus de 4 milliards de livres de réduction de TVA qui passent de 20% à 5% et un plan de 500 millions de plus intitulé « Eat out to help out » pour inciter les Britanniques à manger à l'extérieur.
Le montant des repas pris dans les entreprises participantes du lundi au mercredi sera réduit de 50% jusqu'à un maximum de 10 livres par personne pour tous, y compris pour les enfants.
Après 15 semaines de fermeture, la nouvelle est bienvenue pour les pubs et restaurants qui espèrent sauver leur saison estivale malgré les limites de capacité d'accueil dues aux nouvelles règles sanitaires.
Reportage de Aude Soufi. À Hong Kong, les nouveaux outils de contrôle chinois prévus par la loi de sécurité nationale se mettent en place très rapidement. Ces outils sont destinés à empêcher et à punir les crimes de sécession ou de subversion, selon la terminologie officielle chinoise. Et une semaine tout juste après la promulgation de la nouvelle loi de sécurité nationale, un bureau de sécurité vient d'être inauguré en plein cœur de Causeway Bay, quartier dense et commerçant de l'île de Hong Kong. C'était cet après-midi.
En France, il faut se préparer à une reprise de l'épidémie, voire à une deuxième vague, a déclaré hier le directeur général de la santé, Jérôme Salomon.
Des propos qui résonnent alors qu'on trouve à nouveau des traces à des niveaux certes très faibles, mais elles sont là tout de même, des traces de coronavirus dans les eaux usées parisiennes et dans certains départements d'Île-de-France. L'ARS Île-de-France, l'agence régionale de santé, n'est pas alarmiste, mais elle surveille la situation de près. Les explications et les précisions de Margot Delpierre.
Il pourrait s'agir d'une légère reprise de l'épidémie ces deux dernières semaines à Paris. D'après le journal Le Monde, les résultats des prélèvements effectués entre le 22 et le 25 juin dernier marquent un retournement. La moitié des 12 analyses réalisées pendant cette période sont positives, à des niveaux minimes selon le quotidien. Ces traces proviennent notamment des toilettes, des selles de personnes malades récemment infectées par la Covid-19. Il y a toujours de tout dans les eaux usées, rappelle l'agence régionale de santé d'Île-de-France, qui suit malgré tout la situation de très près. L'ARS souhaite exploiter ces données. Pour cela, elle pourrait installer des capteurs pour relier les flux d'eau à des quartiers et ainsi savoir s'il faut faire ou refaire des dépistages par exemple, ce qui lui permettrait aussi d'identifier d'éventuels nouveaux quartiers à investiguer pour éviter la propagation de la Covid-19. Des traces de ce virus dans les eaux usées, il y en a un peu partout dans le monde. Des recherches ont montré que la quantité de traces du virus dans l'eau est corrélée à la courbe épidémique précédant l'arrivée de la vague, suivant son ascension et diminuant fortement avec sa régression. C'est donc un indicateur précieux pour prévoir une potentielle résurgence, affirme l'Académie de médecine. Hier, elle a recommandé la surveillance systématique de ce virus dans les stations d'épuration françaises, tant qu'il circulera dans la population.
Le possible retour de l'épidémie inquiète également Xavier Lescure, médecin spécialiste en maladies infectieuses à l'hôpital Bichat à Paris, qui fait état cet après-midi d'une petite reprise d'activité avec des Covid-19 aigus dans plusieurs services d'urgence en France. Une deuxième vague qui a également à nouveau été évoquée tout à l'heure par le nouveau Premier ministre Jean Castex. C'était dans le cadre de la séance des questions au gouvernement ce matin à l'Assemblée des QAG, qui était le baptême du feu, qui représentait le baptême du feu pour les nouveaux membres du gouvernement devant le Parlement des QAG, suivi pour nous par Pierre Neveu.
La séance des questions au gouvernement, c'est là où une personnalité politique se révèle. Et il faudra s'y faire. Le style du Premier ministre Jean Castex n'est pas le lyrisme, mais la pondération pour défendre sa feuille de route et expliquer sa méthode.
Je suis, mesdames et messieurs, un homme de dialogue. J'ai par ailleurs la conviction que la mise en œuvre des politiques publiques que le gouvernement conduira, quelle qu'elle soit, passera pour être efficace par les territoires.
Pourtant maître de l'éloquence dans les prétoires, Éric Dupond-Moretti, devenu garde des Sceaux, a pour sa première prise de parole été déstabilisé par le chahut ambiant.
C'est déjà compliqué pour moi, c'est une première. On ne juge pas des hommes sur des a priori, me semble-t-il. Vous me jugerez sur ce que j'ai fait quand je l'aurai fait. Je vais vous dire quelque chose. Quand on est au café du commerce, on ne s'exprime pas alors comme quand on est avocat. Quand on est avocat, on ne s'exprime pas comme quand on est ministre. Ça, c'est pour la forme. Moi, au café du commerce, je ne porte pas de cravate. À l'Assemblée, j'en mets une. Voilà.
Plus à l'aise dans cet exercice et enthousiaste pour défendre la transition écologique, Barbara Pompili.
L'écologie en soi n'est pas punitive. Au contraire, l'écologie, c'est l'espoir et c'est la possibilité de vivre demain dans un monde meilleur pour nous, pour nos enfants, mais aussi pour notre économie, pour nos emplois.
Mais la première fois, c'est toujours un peu particulier. On cherche ses mots, on essaye de ne pas se laisser submerger par l'émotion. Elisabeth Moreno, la nouvelle ministre de l'égalité femmes-hommes, se souviendra de sa première prise de parole devant les députés.
J'ai l'habitude de vous regarder à la télévision et être ici avec vous, ça me paraît totalement surnaturel. Vous êtes plus beau en vrai.
Voilà, reportage de Pierre Neveu à l'Assemblée nationale. Au cours de ces séances de questions au gouvernement, Jean Castex a confirmé sa volonté de poursuivre la réforme des retraites. Jean Castex, dont la déclaration de politique générale aura lieu le 15 juillet à 15h, au lendemain de la prise de parole d'Emmanuel Macron. D'ici là, le nouveau Premier ministre se rendra en Guyane ce dimanche, il l'a annoncé tout à l'heure.
Le Premier ministre qui a indiqué souhaiter mettre en place un haut commissariat au plan pour rééclairer l'action publique d'une vision de long terme.
Voilà qui rappelle, Emmanuel, le commissariat général au plan créé après-guerre par le général de Gaulle sur une idée de Jean Monnet. Alors comment cette structure pourrait être adaptée aux exigences et aux modes de gouvernance de 2020, alors que l'esprit de la planification à la française était de construire originellement un projet de société? Écoutez, sur ce point, l'avis de Daniel Agazinski. Il est chef de projet au département Société et Politique Sociale à France Stratégie.
Le plan, la construction du plan, c'est d'abord un exercice de dialogue et de concertation entre experts, mais pas du tout uniquement entre experts, aussi avec l'ensemble des responsables administratifs et les partenaires sociaux, qui sont à l'époque des instances fortes, la société, ce qu'on n'appelle pas encore en ce sens-là la société civile, c'est-à-dire ceux qui vont contribuer au redressement du pays et qu'il faut mettre d'accord sur des objectifs communs et qu'on écoute pour définir ces objectifs communs. Essentiellement, à l'époque, c'était la CGT, qui était très forte à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, bien entendu, et le CNPF, qui s'appelle aujourd'hui le MEDEF. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a comme instance qui permette de définir collectivement un projet de société auquel une société adhère? C'est peut-être à ce niveau-là que une des aspirations à la planification, au retour à quelque chose qui y ressemble, se fait jour. Il traiterait les questions qui sont celles du moment et d'un moment qui est amené à durer, c'est-à-dire de toutes les grandes transitions. Et c'est sans doute ça, encore une fois, qui explique les appels à la rénovation de ce concept, de quelque chose qui s'en approche.
Daniel Agazinski répondait à Anne Fauquemberg. Plusieurs milliers de salariés de Nokia ont défilé cet après-midi à Paris au son des biniou contre la suppression de 1233 emplois en France dans l'entreprise. De nombreux employés étaient venus de Lannion. La moitié des postes du site breton doivent en effet être supprimés. Les Nokia qui ont reçu le soutien de Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, venu dans le cortège dénoncer l'attitude de l'équipementier télécom finlandais. Écoutez-le.
On est dans une période où, on le sait, certaines entreprises souffrent dans leur activité liée à la crise sanitaire. Ce n'est pas le cas de Nokia. Nokia est en train de jouer comme des pétroliers parfois jouent quand il y a une marée noire. Il est en train de déverser ses cuves pour pas se faire prendre en croyant que ça allait se passer inaperçu. Ça ne passera pas inaperçu. La CFDT ne laissera pas faire. On est première organisation dans cette entreprise. On va le mettre au pied du mur. On va essayer de les coller au maximum contre le mur pour leur dire « vous devez rendre des comptes ». Et je demande que l'État français demande la même chose à Nokia et lui demande de rendre des comptes et même de rendre l'argent public dont il bénéficie encore.
Laurent Berger au micro de Jean-François Fernandez. Le bras de fer continue entre la région Île-de-France et l'État sur la question du financement des transports publics avec cette décision spectaculaire destinée à marquer les esprits du conseil d'administration d'Île-de-France Mobilité. Décision de stopper ses versements à la RATP et à la SNCF. C'est une décision temporaire. L'autorité organisatrice des transports franciliens attend que l'État compense les pertes de recettes qui sont dues à la crise du coronavirus avant de éventuellement reprendre ses versements. Les explications d'Hakim Kasmi.
Après les menaces, les actes. Si la région a bien payé les RATP et les SNCF, de mars à juin, malgré une offre assurée qu'à 30%, aujourd'hui, elle n'en a plus les moyens. Car son déficit atteint les 2,6 milliards d'euros. Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, en appelle donc à l'État pour régler la facture.
Aujourd'hui, l'État a fait un grand plan pour l'aéronautique. L'État a fait un grand plan pour l'automobile. La situation des transports du quotidien, c'est la même. Perte de recettes voyageurs, pas de voyageurs et pas de trains qui ont circulé pendant des mois. Donc on est exactement dans la même situation. Mais la différence, c'est que les transports du quotidien, c'est les vrais transports écologiques et populaires. Donc on ne peut pas faire un plan pour l'aéronautique, un plan pour l'automobile et pas faire de plan pour les transports du quotidien. J'ajoute que les conséquences industrielles sont colossales pour des dizaines de milliers d'emplois chez Alstom, chez CAF, chez Bombardier, chez Iveco, chez Eliès. Nous représentons 10 milliards de commandes de matériel roulant neuf chez tous ces industriels.
De son côté, le gouvernement indique qu'il a déjà provisionné un acompte de 425 millions d'euros dans le troisième projet de loi de finances rectificatif pour aider la région. Quant à la SNCF et les RATP, contactés, ils n'ont pas souhaité répondre à nos demandes d'interview, en nous précisant tout de même que le trafic ne sera pas suspendu, mais que quoi qu'il arrive, la somme due devra être réglée.
Hakim Kasmi, les transports en commun à l'arrêt pendant une minute dans de très nombreuses villes de France. Ce soir à 19h30 précisément, les lignes de bus ou de tram marqueront un arrêt pendant une minute en hommage à Philippe Monguillot, conducteur de bus agressé dimanche soir à Bayonne pendant son service. Il est depuis en état de mort cérébrale. L'enseigne de chaussures et de vêtements La Halle aura un repreneur au moins partiellement. C'est Baumann Noir, propriétaire par ailleurs de Morgane, qui a été choisi par le tribunal de commerce de Paris pour reprendre l'activité mode de La Halle. On vient de l'apprendre. Une offre qui permettra de pérenniser 2520 emplois en France dans 366 magasins. Avant de refermer ce journal, un grand bravo à Claude Guibal, que vous entendez régulièrement dans les journaux et sur l'antenne de France Culture. Claude vient d'obtenir le prix Christophe de Pontfilly, décerné par la SCAM, un prix récompensant dans la catégorie journalisme les écritures documentaires. Claude est distingué pour l'ensemble de son œuvre. La météo, un temps nuageux, parfois pluvieux sur le nord demain, des Ardennes jusqu'à la Bretagne, et beaucoup de soleil ailleurs, un temps très sec et des températures qui vont atteindre 36 voire 37 degrés sur la Côte d'Azur. Il fera 35 degrés demain sur le Lyonnais en début d'après-midi.